Chapitre 34. Le soleil tomba rapidement. À 4 heures de l'après-midi, les nuages bas l'engloutirent, et la nuit s'allongea sur l'Écosse, sans transition, sans crépuscule. Ludivine, Seignon et Michaelis étaient attablés dans un box en cuir et en bois verni, à l'arrière d'un pub, où une musique pop comblait les silences des conversations des quelques clients. Elliot Monroe n'avait pas parlé. Il s'était recroquevillé dans sa coquille, loin, dans son enveloppe d'homme frêle et quelconque. Le tueur était submergé par la peur, enfoncé loin dans sa tanière, à l'abri des regards. Ludivine avait fait plusieurs points par téléphone avec Aprican, puis avec Magali. Pour l'instant, il n'y avait rien de notable dans les biographies des enseignants du Bois-Larry. En revanche, la vie de Victor Magg révélait davantage de détails captivants. L'homme avait grandi dans un hameau au nom prémonitoire, Pestilence, 5 maisons perdues dans le Lot-et-Garonne. Jusqu'à ses 19 ans, Magali et son équipe n'avaient rien trouvé. En revanche, son nom apparaissait ensuite dans plusieurs affaires de vol, cambriolage, et même une agression sexuelle près d'un lac en été. Jamais la culpabilité de Mag n'avait pu être prouvée. Pendant plus de 10 ans, il avait travaillé dans une scierie près de son hameau. Il était venu s'installer en région parisienne en avril de cette même année, pour finalement déménager en juin vers Achères-Grand-Cormier. Il avait la bougeotte. À peine quittait-il le giron familial qu'il passait à l'acte, s'obligeant à partir vite. Magali avait trouvé étrange qu'il ait attendu d'avoir 33 ans pour fuir son trou perdu. Elle soupçonnait qu'il soit déjà passé à l'acte à plusieurs reprises dans sa région, au point de devoir décamper. Elle avait contacté les collègues de la SR de Toulouse pour qu'ils vérifient parmi les meurtres de femmes du coin depuis 10 ans si un ou plusieurs avaient des similitudes dans le passage à l'acte. L'un des détails qui formait la signature de Victor Magg était l'étranglement de la victime avec ses propres sous-vêtements. Il l'avait fait pour Claire Nourry, Nadia Sadan et Isabelle M6, les 3 victimes qui avaient compté à ses yeux. Le colonel Aprican avait appelé peu après. Les experts informatiques de la section de recherche avaient trouvé dans l'historique effacé de l'ordinateur de Victor Magg la trace du même site que celui visité par Elliot Monroe, Seeds in Earth. Mais celui-ci était fermé. Plus personne ne pouvait y accéder.
« Monroe a été recruté cet été »,
résuma Michaelis, une pinte de bière à la main.
« Son premier meurtre est balbutiant, en pleine ville. Une cible facile. Une junkie qui traînait là. Il tente de la violer, de mettre en scène son crime, pour plaire à ses nouveaux amis. C'est son épreuve du feu. Il l'a passé. Il a réussi. Du coup, son Pygmalion décide de l'inclure dans la boucle. Il lui commande de tuer dimanche soir, en même temps que Victor Magg et que la bête en Pologne.
Pourquoi le 4e tueur en Espagne n'est-il pas passé à l'acte ? Demanda Ludivine. Michaelis leva la main pour souligner que c'était là une bonne question.
« Il l'a fait !»
proposa Seignon, qui connaissait le mieux l'affaire espagnole, pour l'avoir lu entièrement.
« C'est juste qu'on n'a pas encore retrouvé de corps. Le tueur espagnol sévit dans une région montagneuse, la Sierra de Guadarrama, au nord-ouest de Madrid. Lui, il chasse ses proies. Il les kidnappe en ville, et on les retrouve mortes dans la montagne, les pieds et les mains en sang. Il les traque pendant des heures avant de les abattre au fusil. »
Les chasses du comte Zaroff, dit Ludivine, se souvenant du célèbre film en noir et blanc.
C'est exactement ça.
On a toute la doc sur cette affaire en Espagne ? Insista la gendarme. De toutes les pistes, c'est celle qu'on a le moins exploitée.
Parce que c'est celle où il y a le moins d'indices, expliqua son collègue. Les flics sur place sont au courant de mes requêtes. Ils nous préviendront à la moindre nouveauté. L'enquête dure depuis cet été et l'état dans lequel on retrouve les victimes est un véritable frein. Elles sont découvertes par des promeneurs ou des gardes-chasse longtemps après leur mort, en état de putréfaction avancée.
Mode opératoire très différent des autres,
remarqua Michaelis.
Oui, mais le étoile E est bien inscrit sur leur peau, sur le front ou sur le torse pour l'une d'elles, taillé au couteau. Il y a 4 morts qui semblent liées, mais seulement 3 ont le signe, et encore, sur 2, il a fallu des radios du crâne pour remarquer l'os entaillé par la pointe du couteau. Le 4e cadavre était en trop mauvaise condition pour qu'on remarque quoi que ce soit. et même la balle l'ayant tué n'a pas été récupérée. Il pourrait tout aussi bien ne rien avoir à faire avec notre assassin.
Jusqu'à l'os ? Il n'y est pas allé de main morte, lâcha Ludivine.
Donc, reprit Michaelis, il est possible qu'il ait tué dimanche soir aussi, comme ses petits camarades.
Fort probable, confirma Seignon. Attendons de voir ce que la police trouvera dans les jours à venir. Ils ont multiplié les patrouilles dans la Sierra, mais c'est un territoire escarpé et long de 80 kilomètres.
De quand date le premier crime là-bas ?
Juillet, je crois.
Le criminologue pencha la tête en arrière pour réfléchir.
Ce qui laisse Victor Magg comme le premier à être passé à l'acte, dit-il.
Vous pensez que c'est lui le étoile E du forum ? Demanda Ludivine.
Possible. Il y avait des livres chez lui ?
Je ne sais pas. Pourquoi ?
Étoile E est un idéologue. Il a une culture dans ce domaine. Il lit certainement beaucoup. Je ne dis pas qu'un garçon ayant vécu toute sa vie dans un hameau au fin fond du Lot-et-Garonne ne peut pas en être capable, mais une personnalité comme la sienne, ça se construit. Il s'est façonné une pensée, des modèles. Il a forcément beaucoup lu sur le sujet. Il faudra interroger les équipes qui ont décortiqué sa maison, scruter les photos prises sur place.
Ludivine s'emballa. Si Victor Magg est leur leader, sa perte va peut-être les déstabiliser pour un moment. Ils n'agiront plus avant de reprendre leurs esprits.
Ils n'ont pas tardé à découvrir notre présence sur leur site,
rappela Seignon. Il faut que Monroe crache le morceau, qu'il parle, qu'il donne au moins un nom.
Il n'en connaît probablement aucun, fit Michaelis aussitôt.
Rappelez-vous son dernier échange, lundi matin, avec Étoile E. Il avait hâte de le voir.
Je crois que le seul lien entre Monroe et les autres, c'est ce site qui vient de nous glisser entre les doigts.
Ludivine reposa sa tasse de chocolat chaud, à moitié vide. Alors ça nous renvoie vers Victor Magg. Si la bête et le Zaroff espagnol sont déstabilisés par la perte de leur leader, on peut espérer un petit répit avant qu'ils recommencent. Ils vont se faire discrets, trouver un nouveau moyen de se contacter. Il faut que Baines mette la ligne de Monroe sur écoute et qu'il veille sur sa messagerie Internet.
Baines est déjà sur le coup, il me l'a dit, confia Michaelis.
La jeune femme contempla le cercle marron zébré de crème blanche qui fumait devant elle, dans la tasse. Ses pensées étaient indisciplinées. Elle partait dans toutes les directions, d'un tueur à l'autre, d'un visage à l'autre. Elle était épuisée.
Alexis.
Son corps en train d'onduler au-dessus d'elle, ses traits figés par l'extase. Sa tête en partie arrachée sous l'impact du coup de feu. L'auréole de sang autour de lui. Son portable se mit à vibrer. Le nom d'Abricant s'affichait sur l'écran. Il ne lui laissa pas le temps de parler. « Faites vos sacs, » dit-il d'une voix atone. « Vous partez pour Cracovie. » Ludivine comprit tout de suite. Elle ferma les yeux. « Il a recommencé ?»« Oui, ce matin même. » Et cette fois, il est allé encore plus loin. Le juge d'instruction a déjà contacté ses homologues sur place. « Les flics là-bas vous attendent dès demain. » Je viens d'avoir Europol, le siège, à La Haye. Vous pouvez attendre une coopération totale de tous les services de police concernés.
C'est gros.
Ça vient de prendre de l'ampleur. Ne merdez pas, Van Coeur. Ça repose sur vos épaules maintenant.